Et voici à présent un dialogue entre Congolais avec Alain Irung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. La RDC classée 50e sur 53 pays africains en termes de gouvernance. Le classement est fait par la Fondation Mo Ibrahim, une organisation qui soutient la gouvernance et le leadership de qualité en Afrique. Comment analyser cette évaluation? Nos invités dans cette émission sont Jean-Pierre Kambila, conseiller du chef de l'État et cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Emmanuel Kabongo, docteur en philosophie et journaliste. Monsieur Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est le sénateur Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et cadre du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Vos réactions, comme d'habitude, nous sont déjà parvenues et sont très nombreuses. Jacques Assungé de Bukavu Sud Kivu, ce rapport n'est pas du tout réel dès lors que certaines avancées à la bonne gouvernance sont à noter. La garantie de la liberté d'expression en est un exemple. Augustin Mwango de Kalima au Maniema, ce classement est objectif car durant les 10 dernières années, notre pays a excellé dans le non-respect de liberté d'expression, de manifestation, du droit social, sans compter l'opacité dans la gestion de la chose publique et la violation massive de la Constitution. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La République démocratique du Congo se classe 50e sur 53 pays africains. L'évaluation est faite par la Fondation Mo Ibrahim, une plateforme d'échange annuelle basée à Londres. Cette organisation vient de publier le 5e indice 2011 de la gouvernance des pays africains. Cet indice souligne une approche équilibrée, équitable et inclusive comme un élément crucial pour la qualité de la gouvernance. Explication Jeff Ngoy.
L'indice fournit de nombreux détails sur la performance de la RDC dans quatre catégories de gouvernance. Il s'agit de la sécurité et de la souveraineté du droit, des droits de l'homme, du développement économique durable et humain. Selon la publication de Mo Ibrahim, la RDC obtient un score global de 32 sur 100 en ce qui concerne la qualité de la gouvernance. Elle obtient une cote inférieure à la moyenne régionale de l'Afrique centrale qui est de 39. Dans la catégorie infrastructure, le pays occupe le classement le plus bas, soit 53e. Tandis qu'entre 2006 et 2010, la qualité de la gouvernance s'est améliorée. L'indice Ibrahim 2011 montre clairement que le pays ne poursuit pas une approche équilibrée visant à améliorer progressivement toutes les dimensions de la gouvernance. Plateforme qui traite des enjeux africains, la Fondation Ibrahim organisera en novembre prochain son forum annuel à Tunis. L'événement soulignera le rôle clé que les citoyens peuvent jouer pour améliorer la gouvernance de leur pays.
Merci Jeff Ngoy. Jean-Pierre Kambila, je rappelle que vous êtes conseiller du chef de l'État et cadre du PPRD. Comment vous analysez ce rapport?
Eh bien, j'aimerais d'abord, si vous me permettez, de faire un petit commentaire sur le commentaire
je vous en prie. Que je
viens d'attendre. Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase que entre 2006 et 2010, les choses se sont améliorées et conclure par le fait que rien ne s'améliore? Je crois que là, il y a une contradiction qu'il faut peut-être régler. Ce qui apparaît très clairement dans cette classification, c'est un, le fait que nous sommes 50e sur 53, là, il n'y a aucune discussion à faire, mais ce qu'il faut souligner, c'est le fait que l'indice montre très clairement non seulement une stabilité, mais une progression entre 2006 et 2010. Une progression qui est incontestable. Et lorsqu'on est dans un pays post-conflit comme le nôtre, un pays qui a souffert d'une très longue dictature, d'une longue guerre interne, sans compter les guerres d'agression...
C'est devenu une phrase générique,
ce
ça.
Ce qui compte... Non. Ce qui compte, c'est de voir les choses dans la perspective. C'est-à-dire de voir si depuis que nous sommes réellement en paix, si depuis que les institutions sont réellement en place, il y a un mouvement vers l'amélioration ou un mouvement vers la détérioration. Or, l'indice lui-même la Fondation Ibrahim elle-même, elle souligne le fait que dans les 5 dernières années, la qualité globale de la gouvernance, je suis en train de lire, la qualité globale de la gouvernance de la République démocratique du Congo s'est améliorée entre 2006 et 2010.
Peut-être que en s'améliorant, on aurait dû être 53e, mais en s'améliorant, nous ne sommes que 50e sur 53.
Non, on devrait continuer les efforts pour améliorer, pour que la prochaine fois, on s'améliore. Mais dans la situation qui est la nôtre, ce qui compte de plus, ce n'est pas de se comparer aux autres, c'est surtout de se comparer à nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas nous comparer aux gens qui ont eu la paix depuis 40 ans. Nous devons nous comparer à nous-mêmes. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous progressons ou pas? Est-ce que nous progressons à la vitesse qu'il faut ou pas? C'est ça la vraie question. Or, ce que la Fondation nous dit très clairement, c'est que nous nous améliorons. Maintenant, il faut aller plus loin. Ceci dit, il y a quand même des choses qui paraissent bizarres dans ce classement. Et que veux dire par là? Lorsque vous regardez nos points pour ce qui concerne les infrastructures, par exemple, nous avons un point sur 100. Bon, je souligne que le document dit clairement qu'ici, il s'agit d'une analyse quant à la situation de 2010. D'accord. Mais un pays qui, en espace de 5 ans, a augmenté le nombre de ses routes, le nombre de kilomètres de ses routes, pratiquement par 50 de routes praticables, je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'on peut être à 1 sur 100. Je peux continuer dans les détails, mais je vois que...
Donc, vous pensez qu'il y a beaucoup de contradictions, en fait, dans ce
oui,
classement.
Oui, j'en trouve beaucoup. Mais enfin, je ne veux pas rentrer dans une contestation du travail de la Fondation, ce n'est pas ça le but. Ce que je remarque, c'est clairement le fait que notre pays, depuis 2006 jusqu'à ce jour, est en progression.
Prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga. Le classement fait par la Fondation Ibrahim ne me surprend pas personnellement. En termes de bonne gouvernance, notre pays a encore du chemin à parcourir. Il y a, c'est vrai, des efforts par-ci par-là, mais c'est largement insuffisant quand il faut tenir compte du fait que notre pays est déclaré tantôt être un scandale. Et donc, il y a du chemin à faire. Regardez les pays qui viennent après nous dans ce classement. C'est le Tchad, c'est la Somalie. La Somalie, c'est un pays qui n'a pas de gouvernement depuis 10 ans. C'est pas possible d'être dans une même classe qu'un tel pays. Et dans ce rapport, nous sommes derniers en Afrique en termes d'infrastructure. Ça doit nous interpeller. C'est vrai que nous sommes un pays post-conflit, comme on aime le dire. Nous devons cesser d'utiliser continuellement cet argument pour justifier la mauvaise gouvernance et le refus de s'aligner derrière les nations qui se développent.
Réaction Jean-Pierre Cambil.
Je réagis un peu comme monsieur, sauf que je ne tire pas les mêmes conclusions. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays comme la Somalie, qui est un pays qui n'a pas de gouvernement, soit mieux classé que nous, sur ce qui concerne la gouvernance, justement? Parce que la 50e place, c'est en fait la sommation des différents indices, hein, parce que je me suis quand même donné la peine de rentrer très en détail sur le document, même s'il l'aurait su qu'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je dis... Cette classification, elle demande déjà une certaine analyse. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce que la Somalie est un pays qui peut se considérer comme contrôlant mieux sa souveraineté que la République démocratique du Congo? Faut quand même pas rigoler. Est-ce que la Somalie peut dire que là, les infrastructures meilleures que le nôtre? Faut pas rigoler, il n'y a pas d'état, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut considérer que la Somalie a un système d'enseignement meilleur que le nôtre? C'est pas possible. Oui, pour dire que il y a quelque chose à dire quant à la construction de l'indice en tant que tel.
Alors, en parlant toujours, en disant que la RDC est un pays post-conflit, mais dans le rapport toujours, on note par exemple que les progrès les plus remarquables ont été réalisés par le Libéria et la Sierra Leone, qui émergent tous d'une longue guerre civile.
Ah, mais bien évidemment. Bien évidemment, je ne m'attaque pas ni à la situation
des pays post-conflit également.
Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quel post-conflit et comment se sont terminés les conflits? Au Libéria, autant qu'en Sierra Leone, si j'ose dire, les conflits sont terminés en une fois. Depuis que Madame est au pouvoir en Sierra Leone et...
Ellen John Sirleaf.
Madame Ellen John, il n'y a plus de conflits. Au Congo, jusqu'à très récemment, vous aviez encore une rébellion qui avait occupé une grande partie du terrain, et jusqu'à aujourd'hui, aucun Congolais n'ignore qu'il existe des troupes, des groupes étrangers qui sèment la terreur chez nous, dans certaines contrées.
Sénateur Moïse Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, la RDC est un pays post-conflit. Ce classement contiendrait certaines contradictions, d'après Jean-Pierre Kambila. Quelle est votre analyse?
Monsieur le journaliste, moi je ne suis pas du tout surpris. Ça a toujours été mon point de vue. Et il n'y a rien de nouveau en fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que un étudiant qui a 32%, il n'est pas à journée partielle, il n'est pas à journée totale, il est refusé. Avec blâme du jury. 32%, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est sans appel. Aujourd'hui, on peut trouver quelques explications à gauche, à droite, c'est parce que ceci. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu une guerre atroce en Sierra Leone? Il n'y a pas eu une guerre atroce au Liberia? Justement, quand M. Kambila a dit que depuis que Mme
Hélène John Sirleaf.
Hélène est présidente, il n'y a plus de conflits. Mais c'est une question de leadership. C'est une question de leadership. Justement, pourquoi il y a des conflits qui continuent chez nous? C'est la manière dont le pays est gouverné. C'est la manière dont le leadership est exercé. Tous ceux qui... par exemple, les groupes armés congolais. Je vais parler des groupes armés congolais à gauche à droite, des Maï Maï à gauche à droite. C'est la manière dont l'armée est gérée. Donc, moi, je veux dire simplement à monsieur le journaliste que c'est une honte qu'aujourd'hui, nous soyons comparés effectivement à un pays comme la Somalie. Dire que derrière nous, il y a la Somalie, d'abord le Tchad, la Somalie est un autre pays, ça devait vraiment nous gêner. Effectivement, la Somalie, qui n'est pas un État, c'est un pays où il n'y a pas de gouvernement, je crois, depuis 20 ans. Dire que c'est avec celui-là que nous sommes dans le classement, eh bien, vous voyez de quel genre de gouvernance nous faisons. Et les questions qui ont été traitées. On a parlé de la sécurité et la souveraineté du droit, de la participation et droit de l'homme, du développement économique durable, du développement humain. Mais quelque part, ils ont parlé des infrastructures. Et là, nous sommes derniers, monsieur le journaliste. Les amis de la majorité, dont Kambila, mon ami ici, ils ont même créé un département de visibilité des 5 chantiers. Et on nous trouve les oreilles en disant, le président a même dit qu'on est en train de moderniser la République. Il a fait un discours aux Nations Unies sur la modernisation de la République démocratique du Congo. Et dans le classement, nous sommes les derniers. Alors, on a modernisé ou on doit chercher encore dans le dictionnaire un autre vocabulaire? Moi, je pense que cette analyse est fouillée et ce n'est pas fait par un Congolais. La dernière fois qu'on a fait ce débat, on a dit que moi, je faisais de l'opposition, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, moi, Ibrahim, ce n'est pas les opposants du Congo. C'est un analyste que je peux qualifier de neutre qui nous permet un peu de nous regarder dans les miroirs. Et de voir l'image que nous donnons à l'extérieur, l'image que nous donnons aux autres. Ça devait nous gêner, ça devait nous interpeller et nous devons réfléchir avant de poser un autre pas.
Prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous, sénateur Nyarugabo.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. L'évaluation de la fondation Mon Ibrahim est fondée. Néanmoins, elle est quelque peu excessive et teintée d'une certaine subjectivité dans la mesure où il y a aujourd'hui des pays africains, mis à part la RDC, où la gouvernance laisse réellement encore à désirer et pire qu'en RDC. Je pense à cet égard qu'il serait mieux que cette fondation reconsidère ou revoie carrément son classement en s'appuyant sur des données fiables, objectives et vérifiables au lieu de tâtonner dans ses investigations.
Ce classement, sénateur Nyarugabo, n'est-il pas excessif, comme l'a dit le conseiller Kambila?
Disons, celui qui vient de parler dit d'abord que l'évaluation est fondée. C'est ça la première phrase. Et dès que lui-même confirme et affirme que l'évaluation, l'analyse est fondée, bon, le reste, c'est plutôt son point de vue qui risque d'être subjectif s'il ne fait pas attention. Évidemment, c'est pas parole d'évangile. Il peut y avoir, à partir par là, des erreurs. Là, c'est une œuvre humaine. Mais moi, je dis simplement, ça devait nous permettre de nous regarder dans les miroirs, le reflet que nous faisons au monde, l'image que nous donnons au monde. C'est plutôt ce qui est important pour moi. qui est une inexactitude à gauche ou à droite, mais au moins, c'est ça l'image que nous donnons.
Le rapport dit qu'entre 2006 et 2010, la qualité de la gouvernance s'est quand même améliorée. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Moi, je n'ai pas encore lu le rapport. Je ne sais pas cette affirmation est bâtie sur quoi. Peut-être que les collègues peuvent d'abord réagir, que j'ai le temps de voir les éléments qui sous-tendent cette affirmation, et là, je réagirai.
Et en matière d'infrastructure, vous pensez vraiment que rien n'a été fait?
Non, on n'a jamais dit ça. Il y a des choses qui sont faites. Mais on doit être un peu modeste. Lorsqu'on regarde les choses qui sont faites, par rapport aux choses qui ont été promises, monsieur le journaliste, eh bien, c'est la nuit et le jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les choses qui ont été faites. Et lorsqu'on regarde le coût, c'est là qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Lorsqu'on fait une route de 5 kilomètres à 100 millions de dollars, eh bien, ou on fait de quelques kilomètres, de 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi à 29 millions de dollars, je pense qu'il y a lieu vraiment de réfléchir si ça s'est déjà fait ailleurs dans le monde. Donc, il y a des choses qui ont été faites, on doit les reconnaître. Mais, dans quelles conditions, à quel coût, quelles sont les études de faisabilité et d'autres éléments, ça continue à nous ramener effectivement dans les 32%.
Emmanuel Kabongo, vous êtes docteur en philosophie et journaliste. La RDC vient avant le Zimbabwe, le Tchad et la Somalie. 32 pour un étudiant qui a 32%, il est refusé avec blâme du jury, a dit le sénateur Nyarugabo. Il faudrait relativiser ce classement d'après Jean-Pierre Kambila. Quelle est votre analyse?
Merci beaucoup pour l'invitation et je suis heureux de rencontrer mes frères, mes distingués frères ici, politiciens et conseillers. Je voudrais dire tout simplement que la notion de gouvernance telle qu'elle a été analysée ici est une notion assez complexe et qu'elle intègre beaucoup d'éléments et que chaque fois qu'on doit y voir clair, il faudra peut-être voir un certain nombre d'éléments qui sont intégrés dedans. Vous savez, aujourd'hui, quand vous demandez à un Congolais en ce qui concerne, par exemple, la souveraineté du droit, c'est-à-dire la primauté du droit sur tous les Congolais, on se rend compte qu'il y a beaucoup, au niveau de la justice, par exemple, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de procès qui n'aboutissent jamais, et ça donne l'impression que le droit au Congo est une toile d'araignée, c'est-à-dire le plus fort des déchirent et les plus faibles sont pris dedans. Et vous prenez exemple la notion de sécurité individuelle. C'est chaque jour que vous apprenez dans les journaux des tentatives de des gens sont tabassés par là, des gens sont tués par ici, la sécurité nationale, la même chose. Mais je voudrais plutôt réagir sur ce que tout d'un coup, mon voisin a dit tout à l'heure que
le conseiller Jean-Pierre Kambila,
oui, l'enseignement est meilleur ici au Congo, par exemple, il citait quelques pays là. Je voudrais vous dire qu'au Congo, nous sommes un des rares pays africains où la déperdition scolaire est à 12% annuellement. Ça signifie que chaque année, plus de 1 million d'enfants congolais quittent les salles de classe parce que l'éducation n'étant pas réellement sponsorisée et payée par l'État congolais comme il se devait, les parents ne sont pas capables de continuer à payer. Et il n'y a pas longtemps, le Fonds mondial pour l'alimentation a publié un rapport sur le Congo, a publié un rapport sur l'alimentation en disant que les chiffres à l'appui en disant que 78% des Congolais n'accèdent pas, ont des difficultés pour accéder à un repas par jour. Donc il y a cet ensemble de choses que vous pouvez, n'est-ce pas, voir ailleurs et que vous pouvez comprendre que dans la notion de souveraineté, elles sont prises en compte. Donc je suis heureux tout simplement de voir que les hommes politiques qui sont là ne font pas comme on a l'habitude de le faire au Congo depuis plusieurs années. C'est chaque fois qu'il y a un rapport n'est-ce pas, externe, internationale, qui est fait sur le Congo. On met en marche une machine du refus total. Non, je n'ai pas vu ça. On ne refuse pas totalement. On n'aura pas ces rapports négatifs en disant que c'est un rapport... Non, je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup de plus de bonne volonté. Mais la bonne volonté serait d'aller plus loin pour voir que dans ces pays, toutes les entreprises de l'État, elles sont au nombre de 22, plus ou moins. Si vous y allez, si vous posez des questions aux agents qui y travaillent, c'est des impayements des salariaux qui datent des mois et des mois. Donc, je pense que dans un pays, la qualité de la gouvernance, à la limite, a pour élément distinctif, n'est-ce pas, c'est la qualité de la vie du citoyen congolais lui-même. Et aujourd'hui, je pense que, plus qu'hier, la qualité de la vie du citoyen congolais a beaucoup chuté.
C'est beaucoup détérioré.
Très détérioré. Il faut aller dans les hôpitaux. Moi, je pense même que quand chaque fois qu'on parle des maladies comme Mbasu, lèpre, tout ça, la tuberculose, la recrudescence de toutes ces maladies primitives qui n'existent plus ailleurs, mais qui reviennent au Congo avec une recrudescence, avec une virulence incroyable, signifie que l'environnement lui-même est devenu hostile à la vie, tandis que l'homme lui-même n'est pas suffisamment nourri pour résister à toutes ces maladies. Donc, je pense que globalement, je ne les ai pas lus totalement, mais je pense que à ce que moi je vois, à ce que moi j'ai vu, je suis au Congo, et globalement la qualité de la vie du Congolais, qui est l'élément primordial, l'élément fondamental, en dernière limite, l'élément qualitatif de toute gouvernance, c'est suffisamment détérioré pour justifier cette classification.
Mais le conseiller Jean-Pierre Kambil a tout à l'heure dit que nous ne devrions pas nous comparer aux autres, mais plutôt nous comparer à nous-mêmes. Serait-ce scandaleux si on comparait par exemple la RDC à la Somalie, Emmanuel Kabongo?
Non, il n'y a pas. Le scandale, c'est ce que les dirigeants politiques devraient tenir compte. Il m'est avis que dans tous les pays du monde, quand des rapports impartiaux, étrangers, internationaux sortent, les hommes politiques les prennent avec suffisamment de sérieux pour en faire, pour voir comment là, on peut améliorer. Et que depuis un certain temps dans notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette négation. Il y a même au niveau de nos dirigeants politiques, les gens qui sont spécialisés dans les refus des rapports internationaux. Dès que ces rapports sortent, ils prennent armes, baguettes et tout pour dire non, ce n'est pas ça. Ils prennent des heures et des heures. Mais nous disons, regardons la qualité de la vie du citoyen congolais, qui a en dernier lieu, n'est-ce pas, l'élément justificatif de toute gouvernance.
Mais la RDC est un pays post-conflit, comme a dit le conseiller Kambila.
Oui, vous savez, je suis content parce qu'il l'a vu comme nous-mêmes. Il a dit, c'est écrit ici, le Libéria améliore sa performance dans chacune des 4 catégories et dans 13 des 14 sous-catégories. Donc ça signifie que les pays post-conflit, comme le Libéria, depuis qu'on se conflit, on en a cité ici.
La Sierra Leone.
Et la Sierra Leone ont amélioré la qualité de la vie du citoyen, ont amélioré la qualité de leur gouvernance. Parce que, je le répète, la gouvernance ici est une notion complexe qui comprend beaucoup de choses allant de la souveraineté du droit, de la rélevabilité, de la sécurité individuelle, de la sécurité nationale, du droit de la femme, de la parité, de la gestion publique. Donc, dans un pays où, n'est-ce pas, tous les jours, nous avons des scandales dans la gestion publique, au niveau de l'environnement des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises congolaises qui sont en train d'être transformées en entreprises commerciales dans une opacité dont on ne peut que regretter. Donc, l'ensemble de tout ça, l'enseignement, je l'ai dit tout à l'heure, la dépression scolaire est trop forte. La protection sociale n'existe pas. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir parler sans avoir honte.
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Kambila, il y a cet internaute Eddy Kenzo de Kinshasa qui dit « Ce classement est en accord avec ce que l'opposition a toujours dit et je suis content que cela vienne d'une aussi prestigieuse fondation qui ne recherche pas des financements mais plutôt qui accorde des prix à ceux qui se distinguent. Je suis sûr que la majorité qui est mise à nu n'aura comme argument le fait de dire que la fondation Moïse Ibrahim fait partie de l'opposition.
Non, écoutez, je ne connais pas suffisamment la fondation Moïse Ibrahim pour commencer à l'accuser, ça ne serait pas sérieux. Puis j'aimerais dire les choses très clairement. Il ne s'agit pas ici de rejeter le rapport, même si sur certains aspects, il peut nous être défavorable. Mais il s'agit de le critiquer et d'essayer d'être objectifs, n'est-ce pas? Bon, la première critique, je crois que je l'ai annoncée tout à l'heure. Et ça, c'est pas que de nier le rapport, que de constater qu'il y a des surprises. Lorsqu'on note 1 sur 100 sur les infrastructures dans ce pays, en se rappelant que dans ce pays, depuis la capitale, on ne pouvait pas faire 500 km vers l'est, on ne pouvait pas faire les 300 km qui nous séparent de notre port, et que ceci est maintenant fait. On peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'en matière d'infrastructure, on peut nous mettre 1 sur 100. Je peux continuer comme ça. Vous voyez, je peux continuer de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour maintenir le score de l'enseignement, parce que, heureusement pour moi, j'avais lu ce rapport de l'année précédente. Hein. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que le score sur l'enseignement de 38, il est le même, alors que depuis l'année précédente, il y a dans ce pays plus de 1 million d'élèves de plus. Grâce, pour répondre à la question de mon compatriote ici à côté,
Emmanuel Kabongo.
De M. Emmanuel Kabongo, parce qu'on a fait des efforts pour supprimer les frais que payent les parents d'élèves.
Mais pour quelle qualité d'enseignement?
Vous savez, dans n'importe quel pays, on ne peut faire des miracles. On ne peut pas demander... En même temps, la suppression des charges des parents, l'amélioration, tout en même temps. Ce que je remarque, c'est qu'on a fait 1 million, on a pu avoir 1 million d'élèves de plus dans les écoles primaires, on a pu ouvrir dans chacune des provinces des écoles qu'on appelle les écoles d'excellence, pour où l'on sélectionne les meilleurs de nos enfants pour les mettre. Ce que je remarque également, c'est qu'il y a au niveau de l'enseignement supérieur un effort qui est fait pour contrôler l'enseignement supérieur, pour améliorer la condition de professeurs, de manière à ce que les choses s'améliorent. Donc, nous sommes dans un processus d'amélioration. Et ceci est reconnu dans le rapport.
Et à ce jour, Emmanuel Kabongo mettait l'accent sur la qualité de la vie du citoyen. C'est-elle améliorée d'après vous?
Écoutez, l'amélioration des conditions sociales est les fonctions de l'amélioration des conditions économiques. C'est puisque lorsqu'on travaille, lorsque les infrastructures sont là, les sociétés viennent s'installer, petit à petit, ça s'améliore. Vous n'allez pas par un coup de baguette magique améliorer la situation.
Mais quand les entreprises sont mal gérées, il n'y a pas de paiement, ils sont sous-payés, il y a des détournements à gauche et à droite qui ne sont pas punis, et tout ça, ça ne vous dit rien?
Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de détournements dans le pays. Il y en a. Mais dire qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas punis, c'est pas vrai. Parce que les gens veulent que dès qu'on soupçonne Monsieur X, je soupçonne Monsieur Kabongo, je vais le voir en prison. Ça fonctionne pas comme ça dans un pays en démocratie. Je soupçonne Monsieur Kabongo, je l'amène au tribunal et j'attends que le tribunal ait décidé. Et aujourd'hui, quand vous allez, si vous allez à Makala ou si vous voulez vous informer, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens en prison. Beaucoup plus
qu'on imagine. Des menus frétins.
Non, c'est ce qu'on dit. Non, ne pensez pas que c'est parce que nous vous avez soupçonné X que c'est lui qui doit être en prison. Laissez la justice faire son travail. Et lorsqu'on est en train de faire des efforts sur le plan de la justice, là c'est pour répondre à M. Kabongo. Il faut le reconnaître. Une des raisons de la corruption, je ne dis pas que c'est la seule, ça ne serait pas vrai, mais une des raisons de la corruption, et ceci peut s'expliquer, c'est que les magistrats se considéraient comme étant mal payés, il faut bien qu'ils vivent. Bon, ça ne justifie rien. Mais au moins, de ce côté-là, on fait un effort. Et les efforts continuent. Donc, je reviens à la véritable conclusion de ce rapport, c'est-à-dire que depuis 2006, la situation en RD Congo s'améliore. Et c'est ça qu'il faut voir. Et il faut encourager, il ne faut pas tomber dans la critique excessive de mon ami l'honorable sénateur Moïse Nyarugabo ici présent, il ne faut pas tomber dans l'excès qui consiste à nier même les avancées qui sont évidentes.
Sénateur Nyarugabo.
Monsieur le journaliste, ce que j'ai dit n'est pas excessif. Je peux le démontrer.
Vous voyez tout en noir.
Non, pas du tout. Mais quand c'est noir, je ne vais pas non plus voir du blanc. Je ne suis pas myope, j'ai encore mes yeux...
Ni daltonien.
Monsieur le journaliste, le conseiller du président de la République parle de la sanction. Il a même dit que si vous faites faire un tour à Makala, vous allez trouver que c'est plein de prisonniers. Non. Le président de la République avait parlé des portes des prisons qui seront
largement ouvertes.
Effectivement, les prisons se sont ouvertes, tous les prisonniers sont partis. 969-79 à Kassap, ils sont partis. Et dans d'autres provinces, ce n'est pas seulement au Katanga. En fait, il les a ouvertes effectivement. Mais ce n'était pas les ouvrir pour faire entrer les prisonniers, c'était pour faire sortir les prisonniers, les condamnés et d'autres. C'est pas seulement à Lubumbashi, je signale, où il y a des évasions. C'est à Lubumbashi, à la Kassapa et ailleurs. Encore qu'aujourd'hui, tous les prisonniers qui sont encore dans nos prisons, c'est des prisonniers volontaires. Ils peuvent s'évader quand ils veulent. Parce que les prisons ne sont pas, sont dans un état
délabrement
tel que s'ils veulent partir, ils vont partir.
Mais le conseiller...
Alors, donc je veux dire, tous ceux qui détournent, tous ceux qui demandent des pourcentages de 20%, 40% pour, aux investisseurs, et c'est pour cela que nous sommes classés parmi les derniers en matière d'environnement, de climat des affaires. Tous ces gens-là ne sont pas en prison et ils continuent à demander des commissions, ils continuent à les recevoir. Ils sont des millionnaires, tout le monde le sait. La majorité qui gère les services de renseignement est au courant de ceux qui demandent les commissions, tous ceux qui sont corrompus, mais combien sont en prison?
Mais sénateur, le conseiller Kambila a dit qu'on ne peut pas tout faire en même temps.
On ne leur demande pas de tout faire. Ceux qui ne savent pas faire un peu, on va leur demander beaucoup. Mais qu'ils fassent un peu. En fait, nous voulons simplement qu'ils montrent un peu de bonne foi, qu'ils savent où ils nous amènent. Moi, je tremble quand je vois justement ce genre de classement et j'apprends que ces amis de la majorité, ils veulent demander encore un autre mandat. Moi, je tremble. Donc, je me dis, on ne leur demande pas des miracles, ils ne sont pas capables de faire des miracles. Mais nous leur demandons de faire un peu, ne fût-ce que de nous montrer qu'ils savent dans quelle direction ils nous amènent. En fait, mais c'est comme si on est en train de tournoyer, on ne sait pas où on va, on n'a même pas encore pris la bonne direction. On leur demande des miracles, mais un peu d'effort.
Alors, un peu d'effort, il y a Faïda Moulenga Biouma Chantal du Nord Kivu qui dit, pour pallier au déficit des infrastructures en RDC, il suffit de conscientiser tous nos dirigeants politiques à quelque niveau que ce soit, d'investir au pays et non à l'étranger pour booster le changement. Que faut-il concrètement, sénateur Nyarugabo, pour que ce processus qui a commencé dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance puisse atteindre le zénith?
Je suis d'accord avec cette dame. Il faut encourager tout le monde à investir, mais il y a deux conditions. Un, il faut qu'il y ait création d'une classe moyenne, des gens qui vont investir. Qui va investir? L'argent circule entre les mains de quelques personnes, encore ces personnes, c'est des politiciens, et ceux-là n'ont pas le courage d'investir au pays parce qu'ils savent qu'ils ont acquis ces biens de manière indue. Et c'est pourquoi ils doivent aller cacher ça dans les comptes à l'étranger. Donc la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie normalement, qui sont payés, qui peuvent... C'est la seule condition. Mais la deuxième, c'est qu'il faut qu'on améliore le climat des affaires. Lorsque je vois comment on nous classe en matière de tracasserie, il semble qu'il faut beaucoup de mois pour ouvrir une société ici. Alors que dans d'autres pays, c'est une affaire d'un jour, une affaire d'heure. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez?
Emmanuel Kabongo, nous prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Nicolas, je suis à Mongafula, à Kinshasa, pour améliorer la bonne gouvernance dans notre pays. Première solution, je propose qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsqu'on met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, il y a toujours des résultats positifs. Deuxième solution, chaque début de l'année, chaque ministère doit présenter un plan d'action avec des objectifs bien chiffrés pour que ça soit apprécié avec des experts. Et ces plans d'action doivent être suivis et acceptés par la primature et s'y réveiller de près, pas se limiter seulement aux déclarations et c'est tout. Ce qui a tué le pays, il n'y a pas ce qu'on appelle les suivis et évaluations et l'assurance qualité.
Emmanuel Kabongo, comment vous analysez les propositions de cet auditeur pour améliorer la gouvernance en RDC?
C'est vrai que fondamentalement, il a raison parce que le développement est fait par l'homme pour l'homme. Il n'y a pas de développement qui soit fait en dehors de l'homme et non pas pour l'homme. Donc c'est l'homme qui doit formater lui-même son propre développement. Et en cette matière, nous estimons, et tout le monde le sait, que l'État, en sa qualité de gestionnaire, en sa qualité de maître d'affectation des ressources, a toujours le plus grand rôle à jouer dans le développement humain. Parce qu'en fait, c'est l'État. À la limite, l'État signifie que ce sont des gens qui sont là, qui affectent, qui récoltent toutes les ressources qui les affectent pour, n'est-ce pas, améliorer la qualité de la vie du citoyen. Et j'estime ici que il n'y a pas plusieurs moyens pour détruire, n'est-ce pas, un peuple. Il n'y a pas plusieurs moyens pour détruire une population. Si ce n'est que ne pas donner un salaire, je crois que le sénateur vient de dire tout à l'heure, ne pas donner un salaire à un père de famille, ne pas donner un salaire à une mère de famille qui travaille, signifie tout simplement qu'un père qui ne sait pas nourrir son enfant, qui ne sait pas nourrir ses enfants, qui ne sait pas bien sa femme, d'abord perd son autorité sur ses enfants, il perd son autorité sur sa femme, et là, la société entre dans une sorte de cycle de délinquance totale. Et aujourd'hui, au Congo, un pays de 60 millions, de plus ou moins 70 millions de personnes, la force active, c'est-à-dire des gens qui émargent avec un vrai salaire, qui peuvent vivre avec un vrai salaire, ne dépasse pas 4%. Ce sont des chiffres qui existent et que nous pouvons lire partout. Et à cela, c'est que le reste émarge d'une économie informelle qui elle-même est aujourd'hui dans les mains, n'est-ce pas? On parle d'une économie libanisée, d'une économie de ceci, d'une économie indo-pakistanaise, d'une économie chinoise. Et on regarde, on se dit, mais les Congolais eux-mêmes, de partout, sont où? Donc, il y a dans ces systèmes dans lesquels nous vivons, des choses qui sont visibles. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au Congo, il y a une réelle classe moyenne. C'est-à-dire la classe qui détiendrait quelques moyens de production, qui détiendrait quelques biens. Et vous savez qu'au Congo, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une banque où les Congolais ont la majorité en tant qu'actionnaire. Vous savez qu'au Congo, aujourd'hui, et dans tout ce que nous consommons, nous mangeons, il n'y a rien qui, n'est-ce pas, les Congolais ne détiennent, aucun Congolais ne peut dire que lui détient quelque part, des parts dans ce que nous consommons comme pied de poulet, comme pied de porc, comme pied de ceci. Ça signifie que tout nous échappe. Ce qu'il faudrait, au-delà de ce que dit notre ami, c'est que puisse faire une véritable politique, n'est-ce pas, de congolisation, n'est-ce pas, de nos ressources. Parce que, à part, bien sûr, je pense que j'aurai le temps de le dire, vous savez qu'un certain nombre de lois ont été faites ici, et ces lois ont permis, justement, une affectation, peut-être inacceptable, de tout ce qu'il y a comme espace minier, n'est-ce pas, aux gens qui ne sont pas... qui ne sont pas les meilleurs, enfin, en tout cas pour l'économie congolaise. Et ça fait que aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays où l'économie nous échappe. Quant à ce qui concerne la politique elle-même, nos dirigeants politiques, je le sais, je le comprends, subissent même des pressions sur, n'est-ce pas, une mise sous tutelle internationale qui ne se cache pas du tout. Donc l'ensemble de tous ces facteurs démontre que la prise en compte de la vie du Congolais en tant que, n'est-ce pas, en dernier recours, l'homme pour lequel on fait la politique au Congo, n'est-ce pas, n'est pas encore pour aujourd'hui.
Jean-Pierre Kambila, je rappelle que vous êtes conseiller du chef de l'État et cadre du PPRD. Il y a Tipo Kajaps qui nous écrit de Moba Katanga qui dit « Aussi longtemps qu'il n'y a pas de volonté politique pour que les conditions sociales du Congolais soient améliorées, la RDC ne sera que mal cotée sur la gouvernance. Tout Congolais a le devoir de contribuer à cette bonne gouvernance. » Quelles sont les solutions que vous proposez pour améliorer cette gouvernance? Il propose la bonne gouvernance. Emmanuel Kabongo dit que l'État doit jouer son rôle. Le sénateur Nyarugabo parle de la création d'une classe moyenne et de l'amélioration du climat des affaires, entre autres. Quelles sont les solutions pour vous?
Oui, ce que je regrette un peu, c'est le fait de nier la volonté. Je crois que l'auditeur tout à l'heure a parlé, il faut qu'il y ait une bonne volonté. Le sénateur l'a dit avec d'autres mots. Ils peuvent faire un peu, on leur demande pas de faire des miracles. Mais le sénateur sait que nous n'avons pas fait des miracles, on a fait beaucoup.
Plus que des miracles.
Non, on a fait beaucoup moins que des miracles, mais on a fait beaucoup. Il faut regarder d'où vient ce pays. Et je vais prendre des exemples tout à fait concrets qui ressortent dans ce qui a été dit ici. Lorsqu'on parle du climat des affaires et qu'on dit qu'il faut des mois et des mois pour créer une société en vie de mort du Congo, c'est quelque chose de concret que je viens d'attendre. Ben, vous savez que dans ce pays ici, pour créer une société, il fallait des mois, c'est vrai. Mais aujourd'hui, au moment où on nous parle, en deux semaines, vous avez une société créée. Preuve à l'appui. J'aimerais que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, en vue de démocratie du Congo, vous concoctez vos statuts, vous déposez chez le notaire.
Ce n'est pas vrai.
Une semaine. Sénateur, vous contrôlez.
Le sénateur dit que ce n'est pas vrai.
Qui contrôle? En deux semaines, aujourd'hui, vous avez votre société créée. C'est un effort qui va dans le sens de faciliter les affaires, non seulement pour les étrangers qui viennent investir chez nous, mais aussi pour ceux qui veulent demain constituer notre classe moyenne. Lorsqu'on parle de salaire, c'est vrai que nos salaires sont insuffisants, mais n'oubliez pas que dans ce pays-ci, le professeur d'université est touché moins de 15 dollars. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de 2000 dollars.
Et le magistrat,
au moment où nous parlons, il les a. Il les a. Celui qui les a pas encore touchés, c'est une question de temps, c'est une question de programmation. Il les a, il les aura. Et ainsi de suite, petit à petit. Bien sûr que ce même professeur d'université, s'il va en France ou aux États-Unis, au Canada, il va peut-être toucher 6 fois plus. Mais ce qui compte chez nous, c'est les efforts. Nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Constitution d'une classe moyenne, comme vient de dire mon frère Kabongo ici. Bien sûr. Mais les efforts sont faits toujours dans le même sens. Vous voyez? Mais seulement, ne demandez pas tout de suite. Parce que personne n'aura la capacité de faire tout de suite.
Merci.
Ce qui est fait est grand. Continuons sur cette même lancée. Ceux qui veulent prendre le risque de tout remettre en cause pour confier la République à un projet qu'en fait qui n'est constitué que de promesses prennent un risque considérable.
Merci.
Le pays a démarré, il faut continuer sur cette lancée-là.
Sénateur Nyarugabo.
Monsieur le journaliste, nous ne demandons pas à ceux qui dirigent de faire des miracles. Nous leur demandons de faire des choses concrètes qui sont à leur portée, qui ne font pas.
Entre autres.
Et je pense effectivement qu'il y a un problème de volonté politique. Parce que aujourd'hui, on a proclamé la tolérance zéro, qui est vraiment à zéro point, et n'a jamais démarré. Alors, l'économie est informelle. Aucune régulation. Il y a des lois, mais on ne les applique pas. Aujourd'hui, c'est des femmes chinoises qui font les beignets ici. Est-ce qu'une Congolaise peut aller installer un truc pour commencer à vendre les beignets en Chine? Allez essayer, vous allez vous retrouver en prison. Des salaires, on vient d'en parler. Des militaires et policiers ne sont pas payés. Des mines ou des minerais, ils sont bradés à des sociétés qui sont dans les îles Vierges. Est-ce que pour ça, on n'a pas besoin de financement pour bien vendre nos minerais? L'insécurité bat son plein. Le délestage et les coupures du courant, l'absence d'eau potable, c'est de l'énergie. Et on continue à nous dire qu'on a fait des améliorations en des termes. Donc, je veux dire qu'il y a des choses que le gouvernement peut faire, peut améliorer, gérer déjà nos minerais de manière responsable, avec des entreprises connues et reconnues, et pas les vendre aux sociétés qui ne sont pas connues, qui sont dans les îles Vierges, pour aller les brader à la bourse et avoir des millions qui se partagent. C'est pas responsable. Cet argent peut servir à régler certains problèmes.
Merci. C'est Emmanuel Kabongo, docteur en philosophie et journaliste. Conclusion, je vous en prie.
Oui, bien sûr. Je voudrais lancer une pique à mon ami Moïse, que j'ai le bonheur de voir sur ce plateau, pour dire que quand il y a eu des révisions des contrats miniers dans ces pays, et qu'on s'est décidé de revoir tous ces contrats pour dire, voilà, nous allons revoir ces contrats pour demander de l'argent, un peu plus d'argent, et on a vu le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, voter à l'urgence une loi pour une entrée forcée dans le WADA. Ça signifie qu'aujourd'hui, beaucoup de ces contrats léonins, qui sont aujourd'hui, dont parle Moïse, ne pourront jamais être revus, parce que, avec le WADA, vous entrez dans un système que vous ne maîtrisez pas, où nous serons condamnés, et nous verrons notre dette toujours intérieure triplée.
Merci.
Donc je voudrais...
Le Sénat avait rejeté la loi sur le WADA.
Merci, conseiller Kambila. Juste un mot en guise de conclusion.
Un mot en guise de conclusion, c'est que personne ne peut dans ce pays nier nos difficultés, mais personne non plus ne peut nier les efforts qui sont concrètes, que chacun peut constater tous les jours.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Kevin Kouté, sous la supervision de Péléquipé Lamondo, Alain Goy et Héritier Sidiakala, la technique. Coordination et présentation, Alain Irung-Mouchinj. Au revoir.